Le journal, Laura Dulieu.
Bonsoir à toutes et à tous. C'est la fin de la journée de vote en Grèce. Les premiers résultats des élections législatives anticipées seront connus dans la soirée. Mais les sondages donnent le Premier ministre Alexis Tsipras perdant. Nous prendrons la température avec notre correspondante à Athènes dès le début de ce journal. Les réactions internationales s'enchaînent après l'annonce de l'Iran qui veut enrichir son uranium au-delà du niveau fixé par l'accord sur le nucléaire de 2015. Alors à quoi joue l'Iran ? Claude Guibal de la rédaction internationale nous donnera quelques éléments de réponse. Et puis plusieurs attaques meurtrières en Afghanistan revendiquées par les talibans, pourtant en pleine négociation de paix avec un représentant américain. Et enfin, le Brésil en deuil après la disparition du père de la bossa nova, João Gilberto. Nous irons à Rio de Janeiro à la fin de ce journal. Les bureaux de vote ferment en ce moment en Grèce pour les élections législatives anticipées. Leur issue fait peu de doutes. Le Premier ministre Alexis Tsipras, issu de Syriza, est donné perdant face à son rival du Parti conservateur Nouvelle Démocratie. Sur place à Athènes, nous retrouvons Marie-Pierre Véraud. Bonsoir.
Bonsoir.
Marie-Pierre, comment s'est déroulée cette journée de vote ?
Eh bien écoutez, dans une chaleur étouffante, hein, il faisait 40 degrés ici aujourd'hui et beaucoup de Grecs sont partis à la plage. Ils sont en train de revenir pour accomplir leur devoir citoyen et l'on dit même que certains bureaux pourraient fermer leurs portes plus tard pour leur permettre de glisser un bulletin dans l'urne. Mais en tout cas, je suis ici au quartier général de Nouvelle Démocratie. Les dés semblent jetés, hein, c'est l'ambiance des grands jours, il y a une fébrilité très perceptible. On annonce un écart encore plus important que prévu entre Nouvelle Démocratie et Syriza. Peut-être 13% avec le parti de Kyriakos Mitsotakis qui serait aux alentours de 40% selon les premiers sondages sortis des urnes. Cela veut dire donc que M. Mitsotakis disposerait à lui seul de la majorité absolue au Parlement. Il serait en mesure de former un gouvernement sans l'apport d'autres partis, notamment de l'ancien parti socialiste. M. Mitsotakis qui est arrivé ici tout à l'heure, sourire éclatant, en compagnie de son épouse, sous les applaudissements des premiers militants qui ont commencé à affluer. Il s'est enfermé avec ses conseillers dans son bureau et devrait s'exprimer après la clôture des bureaux de vote. La participation devrait être, nous dit-on, plus importante que lors des européennes. Il semblerait parmi les autres premières tendances qui commencent en ce moment à tomber que le parti de M. Varoufakis, vous savez, l'ancien ministre de l'économie et des finances de M. Tsipras qui avait rompu avec éclat pour protester contre son acceptation de l'austérité, eh bien pourrait faire son entrée au Parlement. Obdoré, l'extrême droite aussi, disposerait de sièges. En tout cas, M. Mitsotakis ne devrait pas perdre de temps, il devrait être en mesure de former un gouvernement dès mardi matin.
Merci Marie-Pierre Véraud, envoyée spéciale en direct d'Athènes avec les moyens techniques d'Éric Audra. L'Iran a finalement mis ses menaces à exécution, du moins c'est la teneur des annonces faites ce matin par la République islamique qui veut enrichir son uranium à plus de 3,67%, soit le niveau maximum fixé par l'accord sur le nucléaire iranien de 2015. Alors comment analyser la stratégie iranienne avec ces annonces ? Éléments de réponse avec Claude Guibal.
Avec cette annonce, l'Iran entend montrer qu'il a fait longtemps preuve de patience, mais que cette patience, désormais, est à bout. Téhéran le martèle, l'Iran a tenu ses engagements et n'a rien obtenu en retour, sinon le retrait unilatéral des Américains de l'accord nucléaire et la passivité des Européens qui avaient promis de mettre en place un mécanisme de contournement qui n'est toujours pas effectif. Or, c'est bien l'étranglement économique qui pousse l'Iran, qui ne peut plus vendre aujourd'hui son pétrole ni faire d'échanges financiers, à reprendre aujourd'hui son programme d'enrichissement de l'uranium. On est toujours extrêmement loin des taux nécessaires pour une bombe atomique, mais c'est bien évidemment au-delà du taux maximum autorisé par l'accord de Vienne. L'Iran a donné 60 jours avant de passer un cap supplémentaire. Téhéran, qui a aussi rappelé son attachement à cet accord et redit que toutes les mesures étaient réversibles. Pour Hassan Rouhani, le président iranien qui a arraché et négocié cet accord en 2015 malgré l'hostilité des conservateurs, c'est une question de survie. Il avait promis aux Iraniens que l'accord les libérerait des sanctions qui maintenaient l'Iran dans l'asphyxie économique. Il avait aussi promis que cela sortirait le pays de son isolement de paria. En vain, d'autant plus dur à avaler pour les Iraniens que pendant cette même période, la Corée du Nord, en jouant elle la surenchère nucléaire, est devenue à l'inverse un partenaire de dialogue pour les États-Unis.
Merci Claude Guibal de la rédaction internationale. Et depuis le retrait en 2018 des États-Unis, il ne reste plus dans l'accord de Vienne que la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Chine et la Russie. Les signataires de cet accord de Vienne ont d'ailleurs vivement réagi à ce désengagement de l'Iran. Parmi eux, l'Allemagne, qui incite fermement le pays à renoncer à l'enrichissement de son uranium. uranium. Même appel de la part de Londres. La France, de son côté, se donne pour priorité de travailler à la désescalade. Autre réaction, celle d'Israël, qui voit les annonces de l'Iran comme un développement très dangereux et qui exhorte les grandes puissances à imposer de dures sanctions au régime iranien. Pour François Nicoulot, ancien ambassadeur de France à Téhéran, le spécialiste de l'Iran et du Moyen-Orient, s'il y a bien condamnation de la décision de Téhéran de la part des signataires de l'accord, ils sont surtout tiraillés entre volonté des délirants et fidélité aux États-Unis.
Ces pays ont certainement des visions, des stratégies différentes. Mais ils ont tous des difficultés précisément à aider l'Iran, parce que aider l'Iran, ça veut dire prendre un risque sérieux de se fâcher avec les États-Unis. Et c'est quand même un peu compliqué pour les Européens, puis c'est même compliqué pour les Chinois qui sont en négociation difficile avec les Américains et qui ne veulent pas charger la barque par un nouveau dossier de contentieux. Quant aux Russes, les Russes pourraient aider les Iraniens à vendre leur pétrole. En tous les cas, ils l'ont dit à deux reprises, mais pour le moment, on n'a rien vu venir.
Qu'est-ce qu'on doit attendre justement de la part du président de la République française ?
On a le sentiment qu'il cherche en effet à jouer les intermédiaires, disons à faciliter les contacts pour essayer de monter une solution qui permettrait de, au moins provisoirement, au moins partiellement, de régler la situation, d'alléger la pression sur l'Iran et de donner à Trump en même temps la possibilité de dire qu'il a remporté une grande victoire diplomatique. Voilà.
François Nicoulot, joint par Cyprien Pézril pour France Culture. Je souhaite que soient organisés de manière étendue et concertée les corridors humanitaires pour les migrants les plus dans le besoin. Ce sont les mots du pape François qui lance un appel à la communauté internationale. Un appel en réaction au bombardement meurtrier en Libye d'un centre de détention de migrants. Et dans le même temps, en Méditerranée, l'Alan Kurdi, un navire humanitaire allemand, a finalement reçu l'autorisation d'accoster à Malte après s'être vu refuser l'entrée dans les eaux territoriales italiennes. Il y a 65 migrants à bord. Hier, c'est un autre navire du collectif italien de gauche et d'extrême gauche, Méditerranéa, qui a accosté à Lampedusa malgré l'interdiction de l'Italie. Une quarantaine de migrants a finalement pu être débarqués. 12 morts, 8 membres des forces de sécurité et 4 civils et au moins 180 blessés. C'est le dernier bilan d'un attentat à la voiture piégée en Afghanistan contre un bureau des services de renseignement dans la ville de Ghazni au sud-ouest de Kaboul. L'attentat a été revendiqué par les talibans qui sont en ce moment à Doha, au Qatar, où les insurgés s'entretiennent avec une délégation afghane. Des membres de la société civile, d'organisations politiques, des femmes, il n'y a aucun représentant officiel du gouvernement puisque les talibans ne reconnaissent pas leur légitimité. Cette rencontre intervient au milieu du 7e round de pourparlers entre les représentants talibans et l'émissaire américain. Ce dernier a condamné l'attaque de Ghazni dans laquelle des dizaines d'enfants sur le chemin de l'école ont été blessés. Alors comment analyser ces attaques menées en pleine négociation de paix ? Les précisions de Siona Ghezali, correspondante de RFI à Kaboul.
Il est inconcevable de mettre en danger des enfants de cette façon. Réaction de Zalmay Khalilzad, l'envoyé spécial américain pour la paix en Afghanistan après l'attaque de ce matin à Ghazni. Hier, il annonçait que le 7e round de discussion avec les talibans, qui s'est ouvert il y a près d'une semaine, était le plus productif depuis le lancement des pourparlers de paix en automne dernier. Malgré les progrès réalisés à la table des négociations, les talibans ne renoncent pas à la violence. Leur leitmotiv a toujours été « la guerre continue tant qu'il y a des troupes étrangères sur le sol afghan ». Si les Américains, plus largement la communauté internationale et le gouvernement afghan, condamnent unanimement les attaques menées par les talibans, personne ne remet en question les pourparlers de paix. C'est certainement parce que les insurgés sont clairement en position de force à la table des négociations. Avec un nombre de combattants estimé à 60 000 hommes, ils parviennent à contrôler ou à déstabiliser près de la moitié de l'Afghanistan. Et cela malgré environ 300 000 soldats afghans soutenus par 17 000 soldats de l'OTAN, dont 14 000 américains. En menant ce genre d'attaque, en pleine négociation, ils mettent encore plus de pression sur les Américains, montrant leur force de frappe, mais aussi leur détermination à poursuivre leur combat tant que leurs conditions ne sont pas remplies et la principale est le retrait des troupes étrangères d'Afghanistan. Les talibans ne sont pas pressés, ils peuvent continuer à se battre des années s'il le faut, explique Nazar Moutmain, un ancien membre du régime taliban résidant à Kaboul. Les Américains sont eux pressés de partir, rappelle-t-il.
Sonia Ghezali. L'Afrique s'apprête à lancer sa zone de libre-échange continentale africaine, la ZLEC. Le lancement symbolique a lieu à Niamey au Niger par les pays de l'Union africaine. 54 des 55 pays africains sont membres de ce nouveau marché. En jeu principalement la baisse des tarifs douaniers. La ZLEC devrait être active dès 2020. Elle réunirait 1,2 milliard de personnes. Et puis un séisme de magnitude 7,1 a touché l'est de l'Indonésie ce dimanche. Une alerte au tsunami a été déclenchée par les autorités. Les prochaines semaines s'annoncent tendues pour les relations entre la Turquie et ses alliés de l'OTAN, États-Unis en tête. Dès la semaine prochaine, Ankara devrait recevoir les premiers composants d'un système de défense antimissile russe, les S-400. Les autorités américaines ont menacé de représailles le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui s'est montré inflexible depuis le début. Et les premières sanctions pourraient tomber très vite. Les explications de notre correspondante à Istanbul, Anand Lohar.
En plus d'une série de sanctions économiques, l'une des principales conséquences de l'arrivée sur le sol turc d'un système russe de défense antimissile et antiaérien ultra performant, les S-400, risque d'être l'exclusion d'Ankara du programme F-35. Le F-35 est un avion de chasse américain que la Turquie et d'autres pays contribuent à fabriquer. Ankara a déjà investi plus $1 milliard dans ce programme et elle compte acheter une bonne centaine d'appareils pour renouveler son armée de l'air. Mais Washington a été clair, ce sera soit les S-400, soit les F-35. Les premiers pourraient compromettre la sécurité des seconds, argumentent les États-Unis. Ils n'ont pas tort, confirme l'expert turc Sinan Ülgen.
Il y a effectivement une sorte d'incertitude au niveau de Washington dans la mesure où ce système russe peut faire le hacking de la plateforme de F-35. La Turquie ne peut pas garantir que les mesures nécessaires seront prises pour totalement éliminer ce risque d'espionnage électronique des systèmes du F-35. Il est impossible de totalement aussi éliminer ce type d'objection qui vient de Washington.
Au-delà de ces questions techniques, qui sont loin d'être secondaires, la crise à venir cache aussi des enjeux très politiques. Les États-Unis n'admettent pas qu'un pays de l'OTAN, la Turquie, se fournisse en missiles auprès d'un pays, la Russie, qu'ils considèrent comme une menace. C'est donc une question de loyauté autant que de sécurité.
Anand Lohar. En France, nouveau retrait de candidature et ralliement dans la course à l'investiture LREM pour les municipales à Paris. Le candidat écologiste Antonio Duarte se retire et déclare faire alliance avec l'ex-porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. Hier et après le ralliement surprise de Mounir Majoubi, Cédric Villani a bénéficié de celui d'Anne Le Breton, élu du 4e arrondissement de Paris. Une course au ralliement qualifiée ce matin de dangereuse par le 3e candidat Hugues Rançon. À quoi doivent s'attendre les élèves qui passent les rattrapages du bac demain? Une minorité d'entre eux a des notes provisoires dues à la rétention de notes de la part de professeurs qui protestent contre la réforme du lycée enclenchée par Jean-Michel Blanquer. Interrogé par France Info en marge de la finale de la Coupe du Monde féminine de foot, Emmanuel Macron a réagi. Il a dénoncé une prise d'otage.
Les choses sont sous le contrôle et je pense que le ministre a eu la bonne réaction. Moi je respecte chacune et chacun, je respecte la liberté d'opinion, la liberté syndicale, mais à la fin des fins, on ne peut pas prendre nos enfants et leurs familles en otage. Je crois que quand on est enseignant dans la République française, on a des devoirs aussi. On a des droits, tout le monde a des droits, mais on a des devoirs. Et notre devoir à tous, c'est que quand il y a un examen qui est attendu avec angoisse et qui vient sanctionner la fin des études secondaires et l'entrée dans la vie universitaire ou la suite, notre devoir à tous, c'est d'être au rendez-vous et c'est de faire ce qu'on doit faire.
Emmanuel Macron interrogé par nos confrères de France Info. Le Brésil est en deuil et a perdu une partie de son âme avec la mort de l'un de ses musiciens les plus célèbres. João Gilberto a inventé avec sa voix son rythme sensuel, la bossa nova. C'était il y a tout juste 60 ans avec son tout premier album, The Girl from Ipanema, à Rio de Janeiro, Anne Vigna.
Au soir de la mort de João Gilberto, son nom circulait dans les fêtes de Rio. La mort du père de la bossa nova était ce samedi soir sur toutes les lèvres, étant donné le monument qu'était ce musicien au Brésil, explique Dani.
C'est une icône de la musique brésilienne. Je peux dire que c'est un dieu dans l'univers musical brésilien. Il a créé une nouvelle tendance, une nouvelle manière de faire la musique. C'est une référence éternelle.
Les Brésiliens se souviennent de son œuvre car à l'étranger, João Gilberto a beaucoup représenté un certain Brésil moderne et avant-gardiste pour Claudia.
C'est une perte considérable. Il était une figure clé de la musique populaire brésilienne. Lui et Tom Jobim représentent la vision que les étrangers ont d'une certaine modernité, d'un Brésil qui peut créer des choses absolument géniales.
Ce week-end, le Brésil a réécouté de la bossa nova, un son des années 50 et 60 qui traduisait le génie musical dont le pays est capable.
Et sachez que la matinale de France Culture rendra hommage demain au père de la bossa nova. Un mot de météo pour finir, la soirée sera plutôt calme sur la majeure partie du pays avec quelques pluies à l'est, en particulier en Auvergne-Rhône-Alpes. Ailleurs, quelques nuages mais un temps plutôt sec. Pour les températures, ça reste chaud dans le sud avec 31 degrés à Perpignan et 30 à Nice. Ailleurs, vous aurez 24 à Dijon et La Rochelle, 17 à Lille, 21 à Paris et 26 à Bordeaux. C'est la fin de cette édition. Elle a été préparée avec Caroline Beneteau et Nicolas Delmas à la technique.